Bonjour et bienvenue sur RLP pour votre émission Culture Éclair avec Émilie à la technique, Valérie à l'animation et notre invité Éric Bouvron. Bonjour Éric.
Voilà, on est clair, il est là. Bonjour tout le monde.
Vous allez bien?
Oui, tout va bien, on est tranquille ici dans le Gard.
Ah, en vacances.
On entend les cigales, on voit les oiseaux et le calme avant les tempêtes du monde qui se passent à ce moment. Donc ça fait du bien de temps en temps. Oui,
ouais, on est tout à fait d'accord. Pour nos auditeurs, donc, une petite information concernant Éric Bouvron. Éric Bouvron est un écrivain, un metteur en scène, un acteur, un danseur et un humoriste français. Il est né en Égypte à Alexandrie, d'un père français et d'une mère d'origine grecque. Il a grandi en Afrique du Sud, où il a suivi une formation au Théâtre National, puis il est venu en France pour parfaire sa formation théâtrale. En 2016, il a remporté le Molière du théâtre privé pour sa pièce « Les Cavaliers », adaptée du roman de Joseph Kessel. En tant qu'auteur, metteur en scène et directeur artistique de sa compagnie, « Les Passionnés du rêve », Éric Bouvron s'inspire de ses rencontres pour créer des œuvres théâtrales, drôles, émouvantes, poétiques, pour emmener avec lui le spectateur en voyage. Éric Bouvron est également connu pour son approche artistique unique, mêlant humour, émotion, poésie, pour transporter le spectateur dans un univers, voire dans des univers variés. C'est ainsi qu'Éric est particulièrement reconnu pour ses adaptations théâtrales, inspirées par ses voyages à travers le monde, ce qui lui permet de restituer les cultures qu'il aborde sur scène avec authenticité. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, Éric, quels sont les voyages et les rencontres qui ont inspiré vos créations?
Alors, merci pour cette jolie présentation, Valérie.
Merci.
Alors, déjà, je suis aussi directeur artistique d'une autre structure qui s'appelle Barefoot, pieds nus en anglais, en français. Mais c'est Barefoot parce qu'on le dirige avec... je suis le mari d'Elizabeth Brownhill et ensemble, on s'y dirige cette structure.
Très bien.
Et aussi une structure qui s'appelle Rire 78, où on mène des actions pédagogiques dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les EHPAD, surtout dans les Yvelines. Donc j'ai un peu la chance de travailler avec ces différentes structures.
Avec un public très très large de ce fait.
Oui, c'était pas voulu comme ça, c'est juste avec le mouvement du temps, on rencontre des gens justement, comme tu disais tout à l'heure, des rencontres avec des gens merveilleux chaque fois. Et qui ouvre des portes, et tu as envie de participer, tu as envie d'être utile, d'avoir ta raison d'être sur la planète avant que tu disparaisses quelque part. Donc c'est toujours des rencontres pour moi, les pays, les voyages. Moi, grâce à ma mère, elle m'a donné cette envie de voyager, parce qu'elle était une agence de voyage en Afrique du Sud, et elle m'a dit, Eric, quand tu finis l'école, je t'envoie faire le tour du monde, c'est la meilleure éducation que tu puisses avoir. Et je pense que c'est toujours ça. Au lieu de partir en voyage et faire du tourisme et prendre des photos pour mettre dans ton portable et montrer des copains, j'ai envie de faire du voyage pour découvrir des cultures, des gens, et ensuite revenir pour écrire sur eux, raconter des histoires, parce que je suis toujours émerveillé par les différents peuples du monde. Par exemple, quand j'ai fini de travailler avec les Bushmen, plutôt on les connaît comme les San People, ces gens qui vivent dans la brousse en Afrique, j'avais envie de découvrir les peuples dans l'autre extrême de la planète, parmi les Inuits. Et oui, c'est là où je suis allé vivre avec eux pour écrire un autre spectacle basé sur eux. Et quand j'étais là, j'ai découvert à quel point la planète est extraordinaire. Et mon ami Thibaut a dit, tu vas faire quoi après? J'ai dit, écoute, j'ai fait le nord, le sud de la planète. Je vais aller là où les gens parlent que du mal. Parce que je suis sûr, partout sur la planète, il y a de la beauté, il suffit de regarder. Et j'ai dit, je vais écrire une histoire sur l'Afghanistan. C'était à l'époque où on parlait mal de l'Afghanistan, avec tous les problèmes de la guerre. J'ai dit, je suis sûr qu'il y a des choses bien, parce que l'être humain, au fond, pour moi, il est bon. C'est des circonstances qui lui obligent de faire des conneries. Et donc, j'ai dit, bon, à l'Afghanistan, et Thibault m'a offert un livre, Les Cavaliers, de Joseph Kessel, une grande œuvre magnifique de 600 pages. Ce n'était pas pour écrire ou l'adapter, c'était juste parce que ça parlait de l'Afghanistan. Et quand j'ai commencé à découvrir le monde de Joseph Kessel, il faut que je raconte cette histoire, c'est tellement extraordinaire. Et naïvement, je me suis mis à adapter un œuvre. Et si je savais que c'était si dur, je ne l'aurais jamais fait. Donc, ça sert des fois d'être naïve. Et voilà, est né Les Cavaliers.
Mais les cavaliers ont eu un Molière. Et pour rebondir dessus, c'est magnifique. C'est vraiment, je dirais, un spectacle qui laisse passer ce que tu es entièrement à travers la musique, à travers les odeurs, à travers tout ce qui fait nos émotions avec Trois fois rien.
Oui, j'ai de la chance d'être formé, en Afrique du Sud, où j'ai un peu ma formation de théâtre, où j'étais dans le corps. On a une formation très anglophone, où on dansait, on jouait, on faisait le clown, on fabriquait avec rien. C'est comme mes maîtres, Peter Brook, qui sait comment mener les choses avec le rien. Pour moi, c'est pareil. On a besoin d'une belle histoire, des comédiens, comédiennes solides, fortes, avec une forte imagination, et le public. Et de là, on part vers le théâtre. Et tout le reste, c'est que l'habillage pour moi. Et c'est comme nous, on parle aux radios, on ne se voit pas, mais on imagine. Waouh, quelle puissance, cette force de l'imagination de l'être humain qu'on a. On adore les histoires, il n'y a rien de plus beau que d'avoir cette imagination qui nous transporte, qui nous fait pleurer, qui nous fait rire. Quand on lit un livre, qui fait le travail? Le livre ou le lecteur? Vous voyez, donc l'auteur, il pose l'encre sur du papier et de là, tu pars partout dans le monde avec des émotions, avec cette imagination qui est notre cadeau comme être humain. Autant qu'il nous fait souffrir, autant qu'il nous fait rêver, tu vois. Donc c'est un peu ça comment j'aime construire et créer, voilà.
Oui, en fin de compte, tu réveilles notre muscle de la créativité, en fin de compte.
C'est joli, c'est ça, le muscle de la créativité, comme c'est joli, ça, exactement. Il y a Ariane Mnouchkine qui a dit le muscle le plus important pour le comédien, c'est le muscle de l'imagination.
Oui.
Et c'est vrai. Si on regarde les enfants, ils sont dans l'imagination, mais tout le temps. Et c'est ça qui est notre enfance. Et des fois, on l'écarte pour d'autres choses. Ou on le laisse nous pourrir la tête en imaginant le pire. Donc, c'est ça. L'imagination est une puissance, je pense, une des plus grandes forces de tout. Parce que est-ce que ce n'est pas des histoires qui a transposé le monde dans lequel on vit ? Que ce soit les histoires de les religions, les histoires de fake news, les histoires pour la politique. C'est que des histoires qui manipulent l'imaginaire. Vous voyez ?
Tout à fait. Donc mais malheureusement, il y a de très bonnes histoires et il y a de moins bonnes histoires.
C'est ça. Et c'est comment on apprend de mieux les choisir. Voilà ce que en parlant avec toi, je viens de découvrir cette phrase. C'est ça, on apprend comment mieux choisir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ?
Alors, pour nos auditeurs, on va essayer de leur faire travailler un petit peu donc, leur imaginaire. Imaginez donc les cavaliers sur leurs chevaux. Et les chevaux, sont représentés par des tabourets, tout simplement. Et ces tabourets servent aussi de lieu d'échange, de moment d'échange entre ces différents personnages. Ensuite, si on poursuit sur Marco Polo, c'est plutôt les odeurs, moi, qui m'ont ému. Comment tu fais passer les odeurs ? Raconte.
Ça mélange de plusieurs choses. C'est évoqué toujours avec l'imaginaire. Le son, la musique, une vibration d'une note de musique, les couleurs sur scène, un mot, le mélange des choses qui provoquent des odeurs, vous voyez. Quand on est au sud, il fait chaud, il a la terre après la pluie et on sent l'humidité qui monte. Déjà, ces images évoquent votre imagination parce qu'on était déjà là, qui provoque une odeur aussi, vous voyez. Dans un spectacle de Paris-Istanbul qui joue actuellement à Avignon, quand on parle des dolmas, les feuilles des vignes avec le riz à l'intérieur et les épices, déjà on pense de la nourriture est liée avec les odeurs, vous voyez, donc on cherche l'essence. C'est ça notre travail d'être auteur ou metteur en scène ou même comédienne ou comédien, c'est d'évoquer les sens, les différents sens qu'on a, les six sens, les cinq sens concrets et aussi celle de l'imaginaire. Donc c'est un cheminement, c'est une recherche, c'est une mise en question.
Donc vous éveillez notre Madeleine de Proust en quelque part.
Ah Madeleine, moi je pense à la Madeleine, je trempe dans mon café les matins, tu vois. Parce que Madeleine de Proust, bien sûr, parce que c'est la littérature française, je le découvre au fur et à mesure, avec Kessel, avec des auteurs aussi contemporains, que ce soit des thrillers ou que ce soit des classiques comme Victor Hugo, je découvre, c'était pas ma culture venant d'Afrique du Sud, pour moi c'était plutôt anglophone. Donc c'est ça, je pense, peut-être comme tu dis, je ne peux pas me prétendre connaître Madeleine Proust autant, non. Oui.
Moi, en regardant, on va poursuivre en se tutoyant, parce que c'est vrai qu'on se voit, on se tutoie. J'ai
moi,
la chance
je mélange les deux. Hein.
Ouais,
je vous
bah
raconte
aussi.
Une petite anecdote. Un jour, je présentais un spectacle à Versailles, et il y avait le maire de Versailles et toutes les autres maires qui venaient de tous les villages et les villes autour. Je présentais une soirée, et moi, étant anglophone, le tu et le vous,
Oui.
je ne peux pas faire la différence, parce qu'en anglais, c'est you. Et il y a une seule. Et quand je disais au maire, tu te mets ici, et l'autre maire, tu te mets là. Et mon père était dans la salle, et j'ai vu qu'il se ferme les yeux, il cache sa tête sous le fauteuil. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait mal? Mais non, papa, je me suis dit, tu ne peux pas dire tu aux tous ces gens qui sont les certains dignitaires. Mais je pense que les gens me pardonnent quand je fais ces erreurs, parce que même quand je joue mes spectacles, les enfants me corrigent pendant que je joue. Ça, c'est très mignon. Parce que c'est pas ma première langue, la langue française. Et
Oui,
néanmoins,
tout à fait.
j'écris dedans, mais heureusement, j'ai des bons artistes et des copains qui me corrigent. Mais c'est le but de vouloir s'améliorer, d'aller vers cette autre langue. Donc, oui, tu peux me vouvoyer, tutoyer, tu fais comme tu
Voilà,
veux.
bon,
Voilà.
on va faire un peu de tout, ça sera très bien.
Oui,
On
c'est bien,
sera dans
c'est
le
bien, c'est
ton.
bien. C'est
Moi,
ça. Allez, faites les erreurs, faites les erreurs.
j'ai repris un petit peu toutes les créations que tu avais eues. J'ai démarré sur la première, c'était 2007, Bushman, c'est ça? C'était la
En
première?
France, oui, j'en ai fait d'autres avant, même en Afrique du
D'accord.
Sud, au Théâtre National en Afrique du Sud, j'avais fait 8 créations en 9 mois, par exemple.
Ah ouais.
On passait du Molière, du Shakespeare, des œuvres de la brousse, des choses écologie, sur les tortues, j'ai des souvenirs du Goldoni, le Commedia
Ah
dell'arte, j'en ai
ouais.
vécu des choses naïvement pas connaissant toute l'histoire derrière, l'histoire, je veux dire, théâtrale. C'était juste des histoires du monde, du Beckett, du Girardot aussi, j'en ai fait. Mais en France, j'en ai fait un sacré chemin, mais les pièces qui commencent à être plus connues, oui, c'était Bushman, où j'étais vivre avec les Sand People dans la brousse en Afrique. Et avant ça, j'avais un autre show qui s'appelait Africa, qui parlait de l'Afrique du Sud aussi. Voilà,
OK.
donc, pardon, je t'ai coupé, mais c'était
Non,
juste
non.
pour que l'historique, que on oublie des choses qu'on a fait aussi.
Tout à fait. Moi, je l'avais inversé. J'avais inversé Bushman et Africa, c'est pour cette raison, tout
Ouais,
simplement. Après, c'est
mais
vrai que bon, il y
ils
a
sont
tout ce qui suit.
entrecroisés, oui.
Oui. Moi, je vois, j'ai noté Les Cavaliers, Marco Polo, Alexis Zorba, Maya, Laurence d'Arabie, le travail avec À Corps et Âme, donc la truite. Et puis j'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'est juste, que après les années Covid, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une véritable accélération. Est-ce que ça veut dire que pendant ces années, bah, tu t'es posé et tu en as profité pour écrire?
Ah, ça c'était assez génial, la période Covid, quelque part, pour le sens de se mettre en question, surtout. On écrivait, ou en tout cas j'écrivais pas mal pendant cette période, et j'avais plein de spectacles qui étaient en attente de vivre. Les gens me disent, oui, mais tu fais des spectacles pleins chaque année. En réalité, non, c'est que je plante des graines, et comme la nature, ça pousse, et des fois ça pousse pas. Tu as un projet qui reste et il reste derrière la tête et il pousse et tu ne sais pas pourquoi il va sortir. Et à un moment donné, c'est la rencontre avec une saison, avec de l'eau, de la pluie et bing, ça pousse et tu ne comprends pas pourquoi. Mais il était planté là. Tu vois, donc j'ai plein de graines plantées derrière mon petit cerveau, dans mon petit ordi. Mais quand la rencontre va se faire ou une occasion qui va lui donner ce coup de pouce, il va sortir. Là, il y a 4 projets qui sont sortis de la terre d'un seul coup, que pour moi, je ne l'attendais pas du tout, vous voyez? Donc, c'est plus organique pour moi que vouloir. Je dis, moi, je ne suis pas un metteur en scène qui cherche un projet chaque année. Si j'ai rien à dire, je dirai rien. C'est juste, j'ai besoin de raconter certaines histoires parce que ça me passionne et je sais que ça va passionner des autres. Et j'ai besoin de la scène pour le faire. Et donc, j'utilise les outils de la scène, parce que je ne suis pas un auteur de livres, je ne peux pas prétendre être. Je ne suis pas un réalisateur de cinéma parce que ça demande des moyens énormes et beaucoup de temps, quitte que d'ailleurs je vais m'y mettre bientôt. Mais pareil, ce sont des cheminements de rencontres, d'outils pour raconter des histoires. Et c'est ça qui me motive quelque part. Là, par exemple, par Istanbul, étant moitié grec, il y a CDFSR, qui est une autrice turque, qui est venue vers moi. Elle dit, écoute, Eric, j'ai une histoire de ma vie, j'ai envie que tu le racontes. J'ai dit, attends, je n'ai pas le temps pour ça, je suis sur un autre gros projet. Mais c'est la rencontre avec cette femme qui m'a intéressé. Et moi, étant grec, elle turque, j'ai dit, mais oui, il faut provoquer certaines choses. C'était une envie de provocation. à l'intérieur de moi. Ma famille m'a toujours parlé, ah, les Turcs nous ont fait ça, ils sont contre nous, les Grecs. J'ai dit, c'est le moment de faire face aux Turcs. Et voilà, boum, est né ce projet Paris-Istanbul de nulle part, vous voyez. C'est les rencontres avec des peuples qui viennent d'ailleurs et on ne peut pas expliquer. Voilà.
Tu parlais de deux autres créations, c'est la danse du caméléon et Cléopâtre, c'est ça?
Ah, Cléopâtre, il est en plein mouvement. J'ai aussi une série, un film sur les braconniers qui préparent.
Très
Alors,
bien.
Cléopâtre est en mouvement, était écrit pendant Covid. C'était oublié parce que Laurence d'Arabie a pris la main dessus. C'était la rencontre, comment dire, l'imprévu de metteur en scène qui était enceinte. Elle ne pouvait pas donner un stage. Elle m'a demandé, est-ce que je peux faire le stage pour elle? J'ai dit, d'accord, je me suis libéré pour la dépanner, mais comme je ne voulais pas juste faire un stage un peu sur des textes classiques, je voulais me mettre moi-même en danger comme je demande les autres de se mettre en danger. Et Elisabeth, ma femme, m'a dit, mais tu as écrit Cléopâtre? J'ai dit, non, c'était juste des bribes. Je ouvre mon ordinateur et je voyais de matériel que j'avais écrit pendant le Covid que j'ai carrément oublié. Je dis, mais c'est quoi cette amnésie? Et finalement, je testais les scènes et boum! J'ai dit, mais on a une pièce ici, on a quelque chose à raconter qui était très actuel, très moderne. Et c'est là il a trouvé sa place. Vous voyez ces petites graines qui poussent. Soudain, ça pousse comme un arbre de figue qui pousse très vite. Donc, il y a Cléopâtre en plein mouvement maintenant. La danse du caméléon, c'était une commande pour l'île de la Réunion sur un peu une histoire sur mon vécu en Afrique du Sud. Et finalement, il a beaucoup plu et il a un joli impact sur le public. Donc, c'est dommage de le laisser juste pour une fois et donc il prend son envol. Vous voyez, c'est des petites choses inexplicables. C'est juste être à l'écoute des saisons, si j'ose dire, avec le vent, voilà, qui vient.
Être à l'écoute, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'île de la Réunion où tu t'occupes d'un
Ah
festival, c'est ça?
oui, joli, joli, comment tu l'as amené, ça, oui, là, c'est très bien. Bien, Valérie, tu es très fine, très bien dans l'écoute, c'est vrai. Oui, ça, c'est un jeu. Voilà les rencontres. Il y a ce festival comédie à l'île de la Réunion, organisé par des enseignants bénévoles, 150 personnes, enseignants qui donnent leur temps, leur argent pour amener la culture sur cette île et développer la culture pour la jeunesse. Je suis allé avec les cavaliers. Tu es invité, tu joues le spectacle, on s'occupe de toi. C'est un voyage, une rencontre magnifique avec les gens de l'île et tu repars. Et il y a une année, quand on m'appelle et dit, écoute Eric, il y a un spectacle qui nous fait faux bond, est-ce que tu peux venir? C'est dans une semaine, donc j'ai accepté de venir avec Bushman. Et c'est là où j'ai compris tout cet effort, toute cette envie de défendre, d'amener la culture vers les gens là-bas. Et j'avais envie de donner plus. J'ai dit, écoutez, je suis prêt de que vous, la prochaine fois, vous allez à Avignon avec votre propre spectacle, et je suis prêt de le mettre en scène. Et d'où est né le spectacle sur Roland-Garros? Parce qu'il est né là-bas. Et de là, à enchaîner les choses, il y avait envie de développer le niveau professionnel et ainsi né une académie où on amène des professionnels pour former, pas que des jeunes, mais tous les âges. Parce que je pense quelqu'un, par exemple, qui a 50 ans ou 60 ans, qui n'a jamais pu faire ce qu'ils ont rêvé parce que la vie en fait en sorte, mais ils ont envie de retrouver les planches. On a ouvert les auditions pour ça et soudain, on avait construit une première équipe d'une dizaine d'artistes de tous les âges, de 19 jusqu'à 62 ans. Et on les a formés. Eux, ils transmettent dans les écoles. Et là, on passe à la troisième année où on fait une création. Et donc, l'année prochaine, on monte un songe de nuit d'été qu'ils vont
Ah,
faire
très
à
bien.
Avignon l'année prochaine aussi. Donc, vous voyez, c'est des rencontres. Des rencontres. Et l'envie de donner ou être utile quelque part. Voilà.
Eric, merci beaucoup. Pour
Oh.
finir, donc, tu nous as fait un petit choix musical, donc Patapata de
Oui,
Mariam Makeba.
c'est ça.
On espère te retrouver très très vite. Merci beaucoup. C'était un
Oh.
très très beau et très bon moment. Merci, au
Grande
plaisir.
grand artiste Myriam Makeba, écoutez bien le click song. Et écoutez bien.
Merci
Merci
Eric.
Valérie.
Au revoir.
Ah,
Oh là là là. Oh là 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 là. Oh,
batakam Aikele Iskaira Atun kepenke Leli kata mama Gekoto jekute Aikele Iskaira Atun kepenke Leli kata mama Gekoto jekute Ova tabe na kam Ova tabe na gantoko
The legendary woman was born on March 4, 1932. When she was just 16, she witnessed the enactment of one of the most brutal segregation systems the world has ever known. This system, called apartheid, made black people prisoners in their own homeland. The white government exploited the labor of many Africans of color and forced millions to leave their homes for impoverished townships. They controlled their lives, restricting where they could go and dictating how they should live and work. Prohibited to go to school after the age of 16, Marian Makeba worked as a nanny and maid.
And, you know, you take that baby, put it on your back, and it feels the warmth of your back and your body. And the child really becomes like yours. And this is the child that will grow up and call you names.
With a voice so profoundly beautiful, Makeba rose to fame in South Africa, joining the popular Manhattan Brothers while forming a quartet of women called the Skylarks. However, the unrelenting oppression of apartheid put a stranglehold on her.
There was just no scope for me as a black entertainer. In 1958, the government passed a new law that no Africans could perform in the cities, in any of the city halls, and so forth.
As a result, she briefly left the Manhattan Brothers to join African Jazz and Variety, where film producer Lionel Rogerson discovered her. He asked her to perform two songs for his anti-apartheid documentary. At the time, she was unaware of the consequences that would arise from starring in the film. Makeba then traveled to Italy for the premiere at the Venice Film Festival. From there, she traveled to London, where she was introduced to Harry Belafonte.
I suggested to her that there might be some things that I could offer and some platforms I could extend to her, and she accepted that offer.
After negotiations to get her to the U.S., Makeba was on her way to America. She became an instant success. After performing on the Steve Allen Show and opening at the Village Vanguard, she received rave reviews from almost all the major newspapers and magazines. She amazed people with the way she fused jazz with traditional African songs and with her pure and impeccable voice.
Not only did it have power and beauty as an instrument, what makes great voices indelible is what people sing about.
Marian Makeba sang about her country's struggle, opening the world up to the suffering of her people. She soon became an international star, becoming the first African woman of color to win a Grammy. Meanwhile, the situation in South Africa worsened.
It happened on Monday, March 21st, 1960. Several hundred natives gathered peaceably to protest the pass laws. Police mounted on tanks opened fire. 69 natives were killed, 176 wounded.
It was then Makeba's mother decided to send Bongi, Makeba's daughter, to the U.S.
On the teeming sandy beaches, in the summer heat.
It was during this tragedy where she learned of her exile. She wanted to go home for her mother's funeral, but the South African consulate refused to allow her back in the country. They were punishing her for appearing in Come Back Africa. Matters became worse when Nelson Mandela, the leader of black resistance, was arrested and sentenced to life in prison.
Bahleli bonke etilongweni Bahleli bonke kwanongqongo Nanku 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 Mandela Nanku nanku etilongweni Yini we ma Africa
She used her fame to be able to get to the media and to let the world know how much we were suffering here.
I ask you and all the leaders of the world, would you act differently? Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Would you not resist if you were allowed no rights in your own country because the color of your skin is different to that of the rulers? And if you were punished for even asking for equality? I appeal to you and through you to all the countries of the world to do everything you can to stop the coming tragedy. I appeal to you to save the lives of our leaders, to empty the prisons of all those who should never have been there.
Married to Stokely Carmichael in 1968, she moved to Guinea, becoming their ambassador to the UN. She continued to draw attention to the suffering of her people, performing shows in Europe and Africa.
Somewhere to blue.
Then, in 1990, the South African government caved in under the pressure of the international community and began dismantling the apartheid system. Nelson Mandela was released from prison and convinced Makeba to come back. And after 31 years of exile, she returned to her homeland. The first democratic election was held in 1994, marking the end of apartheid. In 2005, Marian Makeba announced her retirement, but despite a series of farewell concerts, she never stopped singing. Then the fateful day came in Italy on November 9, 2008. While performing at a concert, Marian Makeba collapsed on stage. Her last audience and her last applause accompanied her as she was rushed to the nearest clinic. Unable to revive her, she was pronounced dead the next day. Throughout her lifetime, Marian Makeba suffered her own tragedies. In spite of this, she chose to carry the burden of her people. Although faced with adversity, she never gave up. She will be remembered as someone who fought for what she knew was right. She used her most valuable weapon, her voice, and fought back with song. Kidege, hakuwaza kidege.